Nous avons terminé la dernière fois en lisant rapidement les textes de l'apôtre Paul qui sont souvent au cœur de la discussion, ceux d'un Corinthiens 11, 14, d'un Timothée 2, d'Éphésiens 5 également, et je n'ai fait aucun commentaire et je crois qu'il est bon que je commence en disant quelques mots à leur propos. Ce qu'on peut voir ressortir de ces divers textes, c'est la notion d'autorité ou celle de subordination, les deux s'équivalent, je crois. Il est très frappant que l'apôtre Paul emploie chaque fois, sauf en 1 Corinthiens 11, le verbe subordonner ou le nom subordination, dans tous les textes que je viens de dire, qu'il utilise dans deux d'entre eux l'image de la tête, qui implique, comme je crois pouvoir le prouver, la notion d'autorité dans son usage métaphorique régulier. Il y a pour Paul un ordre qui régit le rapport de l'homme et de la femme. Je rappelle à propos de la notion d'ordre qu'elle n'implique pas nécessairement supériorité ou infériorité, que l'ordre peut être fonctionnel, déterminer différence de rôle et une attribution de certaines décisions, par exemple. C'est de cette manière qu'il y a ordre entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la Trinité même. Si nous voulons être fidèles à la vérité biblique de la Trinité, nous devons affirmer une certaine subordination du Fils par rapport au Père et cependant leur parfaite égalité dans l'unique essence divine. On peut remarquer encore à propos de ces mêmes textes que Paul se réfère presque toujours à la Genèse. C'est le cas en 1 Corinthiens 11, c'est probablement le cas en 1 Corinthiens 14, car il parle de la loi et il ne semble pouvoir faire référence qu'à la Genèse à propos de la loi. C'est le cas en Éphésiens 5, bien que là il ne cite la Genèse que pour la formule sur le mariage. Et c'est le cas en 1 Timothée 2 de la manière la plus développée. Car en 1 Timothée 2, il ne se contente pas de se référer à Genèse 2, mais il se réfère aussi à Genèse 3, quand il dit que c'est Ève qui, séduite, est tombée dans la transgression, et lorsqu'il ajoute aussi qu'elle sera sauvée par la maternité. Je crois qu'il faut comprendre cela comme une allusion à la parole de Genèse 3, sur la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Le salut pour l'humanité, d'après ce passage de Genèse 3, le salut qui est la défaite du serpent, défaite capitale, sa tête sera écrasée, viendra par un descendant de la femme, c'est-à-dire que c'est par le moyen de la maternité que le salut entre dans l'humanité. C'est peut-être un point qu'on peut souligner, c'est l'accent sur la maternité dans ce passage comme en Genèse 3, à propos des rôles, puisque nous parlons des rôles divers. Ce que je fais encore remarquer, c'est que dans les textes d'1 Corinthiens 11 et 14 et d'1 Timothée 2, il s'agit des réunions cultuelles de l'Église. L'ordre qui est en cause directement, au moins, c'est l'ordre dans le culte. 1 Corinthiens 11, la femme qui prie ou prophétise. Il s'agit de sa tenue qui doit correspondre à l'ordre institué par Dieu entre l'homme et la femme. Mais la préoccupation de Paul concerne l'assemblée du culte. De même en 1 Corinthiens 14, C'est très clair qu'elle se taise dans les assemblées, etc. C'est dans l'assemblée. Et dans 1 Timothée 2, le contexte montre aussi qu'il en va de même. Il s'agit de la manière de se conduire dans la maison de Dieu, comme dit le chapitre 3. Il s'agit aussi de ce qui se passe dans les églises. 1 Timothée 2 élargit probablement, parlant de la maternité, mais c'est la perspective principale. Il ne s'agit pas, comme certains l'ont imaginé, de ce qui se passe dans l'intimité du foyer à l'intérieur de la maison. En particulier, les exhortations sur la tenue vestimentaire montrent qu'il s'agit d'une apparition en public. La femme est exhortée à se vêtir de façon modeste, sobre, etc. etc. C'est pas pour faire son ménage, manifestement. C'est de même pour la prière qui est mentionnée dans les versets précédents pour les hommes. Il s'agit de ce qui se fait en public, donc dans les églises. Et enfin, Éphésiens 5, le passage d'Éphésiens 5, concerne lui précisément la vie à l'intérieur du mariage. Dans Éphésiens 5, l'ordre du mariage est représenté comme un ordre qui reflète le rapport du Christ à l'Église, avec une dissymétrie par conséquent assez frappante. Je rappelle cependant que dans 1 Corinthiens 7, l'autre grand passage de Paul sur le mariage, c'est plutôt de la réciprocité qu'il est question, et on a l'impression plutôt de symétrie. Toutes les recommandations d'1 Corinthiens 7 semblent être faites d'un point de vue symétrique. Voilà les quelques mots de commentaire sur ces textes que je pense nécessaire de raccrocher à ce qui a été dit la dernière fois. Mais je passe alors, comme convenu, tout de suite à la section suivante de l'étude. Alors, la troisième partie dans mon schéma concerne les données du reste de la Bible. Nous avons vu le début de la Genèse et les passages qui font référence chez Paul. Maintenant, le reste. Hommes et femmes dans l'Ancien Testament. La société de l'Ancien Testament est une société manifestement patriarcale. Les rôles de direction sont généralement dévolus aux hommes, et on les voit laboureurs, bergers, dès le temps d'Abel et de Caïn, puis artisans, chasseurs, guerriers, etc. Ce sont là les rôles dans lesquels on trouve en général les hommes dans l'Ancien Testament. Il y a au moins un passage où il semble y avoir conscience d'une différence de rôle, avec un élément péjoratif pour un homme, au moins s'attachant à un rôle féminin. Dans 2 Samuel 3, 29, vous avez une malédiction de la maison de Joab. Et cette malédiction, c'est qu'il n'y aura toujours dans cette maison que des hommes bons à tenir le fuseau. Dans le droit du mariage, tel qu'il est fixé par la loi de Moïse, l'homme est le Baal, le terme pour mari, le plus souvent usité, est le terme Baal, qui signifie maître ou possesseur. Il y a bien sûr un usage pour l'idole que vous connaissez, mais c'est aussi un nom commun, Baal. Et il signifie à ce moment-là maître-possesseur. D'ailleurs, il peut être même employé dans des mots composés pour impliquer la possession de tel ou tel attribut. On pourra avoir un animal Baal de corne, ça voudrait dire un animal à corne, possesseur de corne. Alors, c'est le mot qui est employé pour mari, le plus souvent, et avec un verbe correspondant. Je connais des gens aux États-Unis, des femmes aux États-Unis qui portent le nom de Beulah. C'est en fait le terme hébreu transcrit directement dans notre alphabet et prononcé à l'américaine ou à l'anglaise pour Beoula, qui signifie marié. C'est à propos de la prophétie d'Ésaïe sur la terre qui s'appellera mariée, en Ésaïe 62. Et c'est utilisé comme prénom, mais ça veut dire marié, ça vient de cette racine. Bien que la fable ne soit pas un meuble, que pour le mariage, son consentement soit normalement requis, on le voit dans les histoires de la Genèse, et que toute la question de la dot soit là pour sa protection. Ce n'est pas d'abord un achat de la femme, c'est plutôt une sécurité, un capital dans sa famille qui lui permettra de subsister si son mari la traite de façon indigne. La femme, dans l'Ancien Testament, globalement considérée, est suprêmement mère. C'est la grande bénédiction de la vie de la femme, d'où le drame de toutes les femmes stériles dont il est question, leur prière instante que Dieu leur accorde la grâce de la fécondité. Vous connaissez ces histoires, Sarah, Anne et d'autres encore. Cependant, il y a de fortes personnalités de femmes qui émergent. Il n'y a certes pas de prêtresse en Israël, contrairement à ce qui se passe dans la religion des peuples avoisinants. Les prêtres qui à la fois sacrifient et qui enseignent le peuple sont tous masculins en Israël, et c'est un contraste avec le monde du Moyen-Orient. Mais il y a des prophétesses. On ne peut pas nier que les prophètes et prophétesses étaient revêtus d'une réelle autorité divine. Au temps du roi Josias, par exemple, le roi envoie une délégation consulter la prophétesse Hulda, et non pas un prophète masculin. Il y en avait aussi pourtant à ce moment-là, mais elle devait être spécialement vénérée, prestigieuse. Une prophétesse donc qui exerçait indubitablement une certaine autorité spirituelle en Israël. Et il y a eu des prophétesses en assez grand nombre, de fausses prophétesses aussi d'ailleurs, comme de faux prophètes. Nous voyons une femme juge. Les juges sont les gouvernants d'abord. Il ne s'agit pas seulement de magistrature, mais aussi de conduite de toutes les affaires. Déborah, comme une mère en Israël, est juge, avec la force de l'Esprit de Dieu. Nous avons aussi une institution populaire qui semble avoir été importante et que souvent on néglige. L'institution des femmes sages. Ça ne veut pas dire les sages-femmes. Des femmes expertes, habiles. Voilà ce que ça veut dire. C'est une de ces femmes qui, par exemple, va voir le roi David à propos du retour d'Absalom, lui tourne sa petite histoire pour le faire revenir de sa décision antérieure. Il semble qu'il y ait eu comme une sorte de statut particulier pour certaines femmes qui, est-ce qu'elles avaient un rôle comparable à celui des avocats aujourd'hui, des conseillers de je ne sais quel rang, des femmes auxquelles on reconnaissait une sagesse, une habileté dans le langage peut-être, dans la présentation des causes, qui aient eu une influence sur la vie de la communauté. Et ça, ce n'est pas seulement quelques personnalités très, très exceptionnelles, mais comme une institution. La mère a un rôle important dans l'éducation. Le livre des Proverbes, surtout, la mentionne très souvent. Et il semble que l'autorité de la mère soit une autorité semblable et égale à celle du père. Dans tous ces textes des Proverbes, vous avez père et mère en parallélisme. Vous avez parfois même la mère est seule mentionnée. Un fils insensé fait la honte de sa mère, etc. Vous voyez. C'est l'indice que l'autorité maternelle dans l'éducation est importante dans l'Ancien Testament. et non seulement pour les petits-enfants, mais pour le jeune homme même. C'est le fils insensé qui a déjà, semble-t-il, atteint un certain âge. Et dans le livre des Proverbes, il y a pas mal de passages où l'activité de la femme, son influence, sont mises en relief. Il y a le passage qui sans doute se traduit « La femme sage bâtit la maison, la famille et la dynastie, etc. » C'est spécialement l'œuvre de la femme, Proverbe 14:1. Et il y a surtout le grand texte sur la femme de valeur au chapitre 31. Il est très regrettable que nos traductions habituelles donnent « femme vertueuse » parce que le sens que nous donnons à « vertueux » n'est pas du tout celui de l'original hébreu, en l'occurrence. Il faut prendre le sens ancien du mot « vertu » en français, c'est-à-dire la force, la « virtù » des Italiens. Ce n'est pas donc la vertu comme rectitude morale, comme pureté, c'est la vertu comme force. Le mot qui est employé dans l'hébreu ici est un mot qui s'emploie souvent pour des guerriers. Il évoque soit la richesse, soit la valeur et la vaillance. Alors elle est appelée femme de valeur. Je crois que ce serait la meilleure traduction ou une des meilleures traductions. Dans la tobe, la colombe, dans la colombe, femme de valeur, c'est ça. Je crois que c'est la bonne traduction. Et cette femme, alors vous connaissez le texte, elle est d'une activité prodigieuse, elle dirige les choses, elle mène son affaire bon train. Elle a certainement des rôles très diversifiés et nullement négligeables ou méprisables. Voilà ce qu'on peut observer. On peut signaler aussi que la reine mère semble avoir joué un rôle important. On l'appelle la Gevira, dans le texte de l'Ancien Testament. Il semble qu'elle ait eu un statut d'honneur particulier. Il n'y a eu de reine exerçant le pouvoir qu'Athalie, mais ce n'est pas un exemple très brillant. Autrement, ce sont des rois masculins qu'on voit sur le trône, mais il y a cette présence de la Gevira. Certaines traductions disent la dame, avec une majuscule, vous voyez. C'est la grande dame du royaume, et la dame semble avoir obtenu une influence importante. Dernier point concernant les données de l'Ancien Testament, sauf exception, et ces exceptions, je crois qu'il faut dire quand même qu'elles sont rares, c'est un symbolisme masculin que l'Ancien Testament emploie pour son Dieu. Bien que ce soit un dieu sans sexe, qui n'est pas littéralement masculin, qui n'a pas de déesse parèdre pour épouse à son côté, comme dans les panthéons mythologiques avoisinants. C'est un symbolisme masculin, dieu, père, berger, roi, guerrier, etc., etc. Et c'est un symbolisme féminin qui est employé régulièrement pour la communauté à laquelle ce dieu s'allie. La communauté de l'Alliance est représentée comme une vierge et une épouse, selon les textes, pour l'Éternel. Il y a quelques passages où il y a comparaison, au moins, avec une mère et avec une femme, et où ce sont des activités qui semblent plus caractéristiques de la femme qui sont attribuées à Dieu. C'est essentiellement dans le livre d'Ésaïe. Je ne sais pas s'il y en a tellement ailleurs, mais en Ésaïe 49, nous lisons versets 14 et suivants, « Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai pas. » Alors, bon, il n'est pas dit « l'Éternel est une mère », mais ce sont des sentiments maternels, en quelque sorte, ou hyper maternels, que Dieu s'attribue dans ce passage. Et dans le même livre d'Ésaïe, au chapitre 65, nous avons la parole que M. Fischer a citée l'autre soir. Le 66, excusez-moi, c'était le dernier chapitre, où il est dit au verset 13, « Comme un fils que sa mère console, littéralement comme un homme que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. » Là, la consolation de type maternel Dieu l'assume, en quelque sorte. Mais je pense bien qu'il faut reconnaître que ces textes ne sont pas très nombreux en même temps. Mais ils sont présents, c'est intéressant. Et il faut noter que nous n'avons pas un Dieu traité comme mâle. La pensée même du sexe, selon l'étymologie du terme, c'est de la division en deux catégories. Le divin est unique. Deuxième paragraphe dans cette revue des données, hommes et femmes pour Jésus. Alors certains présentent l'attitude de Jésus comme très révolutionnaire à ce propos. Mais j'observe que c'est selon le tableau que l'on fait des mœurs juives courantes à l'époque que l'on trouve Jésus plus ou moins révolutionnaire. Si on pousse au noir, dans le sens de l'oppression de la femme, le tableau des mœurs du judaïsme à cette époque, alors on fait ressortir que Jésus a été tout différent et on suggère qu'il a été révolutionnaire. Seulement, il faut reconnaître que ces mœurs juives ne nous sont pas connues avec une telle précision et que souvent, la description qu'on en fait semble un petit peu exagérée. Que l'on retient seulement certains traits. De toute façon, la plupart des textes qu'on invoque sont beaucoup plus tardifs, ont été mis par écrit seulement au 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, sinon plus tard, dans le Talmud, après que la communauté de Palestine ait été brisée par les guerres romaines, après que la dispersion ait eu lieu. Alors les témoignages sont des témoignages qui ne sont pas d'une entière solidité. Et puis alors, on retient ce qu'on veut ou pas. Deux, trois ou quatre fois, dans les 40 volumes du Talmud et des Midrash, vous avez une référence à une prière d'un juif pieux remerciant le Seigneur de ne pas être né femme. Et alors, ça s'est souvent cité comme une expression de l'état honteux où l'on tenait la femme. Mais il y a d'autres textes aussi, c'est quand même des textes qui, dans la masse de ces écrits, ne représentent pas une dominante constamment répétée. D'après un article d'un jeune évangélique, un jeune théologien évangélique associé au GBU anglais, certaines femmes pouvaient être appelées mères de la synagogue, avoir un rôle donc là honoré, et il aurait été possible de lire la loi dans la synagogue. Voilà ce qu'il dit. J'ai lu ailleurs, et je ne suis pas spécialiste, que la femme n'avait absolument aucun droit de jamais lire le texte dans la synagogue, que même c'était considéré par certains rabbins comme un péché que de lui apprendre à lire l'écriture. Mais vous voyez, il y a des jugements assez contradictoires que l'on lit de la part de gens qui sont en principe des spécialistes à propos de l'attitude du judaïsme. Je pense que ça devait être assez varié. Alors si nous nous contentons des sources tout à fait sûres, c'est-à-dire des données des évangiles, que dire ? Il me semble qu'on peut observer que dans l'enseignement de Jésus, dans son enseignement, il n'y a rien eu de très particulier à cet égard. Jésus a davantage peut-être souligné la piété des veuves, qu'il était coutumier de le faire, mais enfin il ne s'agit pas de la femme en général, il s'agit plutôt des veuves. Rappelez-vous la pite de la veuve et l'éloge que fait Jésus. Bon, c'est éloquent, c'est une femme, c'est intéressant de l'observer, mais on ne peut pas dire que ce soit un enseignement sur la femme en général. Dans ses paraboles, il fait des emprunts à la vie courante, et il y a des femmes qui y paraissent, la femme qui pétrit la farine, la femme qui cherche la drachme. On voit là des rôles habituels, mais Jésus utilise ça comme matériel parabolique, il ne semble pas porté sur ses rôles mêmes de jugement particulier. Il fait une référence à la maternité, en particulier en Jean 16, il y a un passage où il souligne que l'heure de la femme, c'est celle de la délivrance au moment de l'accouchement, et il compare cette heure à celle de sa propre mort, qui enfantera l'avenir de salut. Donc, il semble que Jésus soit dans cette pensée que l'heure de la femme, l'heure suprême, c'est celle de la maternité, mais on ne peut pas dire non plus qu'il appuie énormément là-dessus. Dans son enseignement sur le divorce, Est-ce qu'on peut dire qu'il défend davantage le droit de la femme, qu'il lui assure une protection accrue? Peut-être qu'on peut le dire. Mais l'accent ne porte pas cependant sur le droit de la femme, dans ce que dit Jésus en Matthieu 19, Matthieu 5, l'accent porte davantage sur l'indissolubilité du mariage comme tel, dans l'intention divine originelle. Jésus est conscient de l'existence des femmes, mais dans son enseignement, il ne me semble pas, mais vous pourrez en discuter, hein, tout de même, que nous ayons des éléments qui tranchent énormément. Ces actes, eh bien, il choisit pour les 12, pour constituer les 12, l'équipe donc, de ces envoyés plénipotentiaires, des hommes, et de même pour les 70. A-t-il seulement des raisons pratiques? En tout cas, c'est le fait que l'on observe. Mais il est entouré de femmes assez nombreuses. Parmi les disciples, le terme est un sens très large, dans les récits des évangiles, il y a des femmes en assez grand nombre. Il semble qu'il ait attiré beaucoup de femmes. Et en particulier, il y a des femmes qui l'assistent de leur bien. Économiquement, la vie quotidienne de la petite troupe de Jésus, pendant les 3 ans de son ministère, a été assurée surtout par des dons venant de femmes. Voilà ce qu'on peut voir dans les évangiles. Ce qui, entre parenthèses, montre que le statut de la femme n'était pas uniformément un statut de dépendance et d'oppression, puisque certaines au moins avaient assez de disposition de leurs biens pour pouvoir soutenir l'entreprise de Jésus. Il y a aussi, en dehors de ces femmes, qui devaient être des femmes d'un certain niveau social pour avoir des biens, des courtisanes repenties, et la plus connue étant Marie-Madeleine, Marie de Magdala, comme vous le savez. Alors, ce qui frappe dans l'attitude de Jésus à l'égard de ces femmes, qui sont nombreuses autour de lui, c'est le respect en elles de la personne. Cela tranche non seulement avec les mœurs juives telles qu'on peut les supposer, mais avec ce qui est la dominante dans presque toute l'histoire et presque partout. Ça, certainement, cela frappe dans l'attitude de Jésus. Mais si l'on considère la question des rôles, pour ma part, en tout cas, je ne vois pas de révolution dans la manière dont Jésus opère. La conversation avec Marie de Béthanie, alors que Marthe s'affaire à la cuisine, comme vous savez, fait un certain contraste avec les opinions de ces rabbins, mais combien étaient-ils, qui jugeaient inutile d'enseigner les femmes. Mais je ne pense pas qu'on puisse quand même aller jusqu'à dire que c'est là une révolution. Il enseignait des disciples féminins qui s'étaient groupés autour de lui, et Marie en particulier. Et l'entretien avec la Samaritaine va dans le même sens. Nous voyons que ses disciples, d'ailleurs, quand ils reviennent du village, sont étonnés de ce qu'ils parlent avec une femme. Je ne pense pas qu'ils soient étonnés de ce qu'il enseigne une femme, mais de ce qu'il soit seul, donc avec le danger pour sa réputation que ça peut impliquer, avec une femme en conversation. Le fait que ses disciples soient étonnés montre que ce n'était pas l'habitude pour Jésus, que ce n'était pas sa coutume à lui-même. Donc je pense qu'il faut ne pas trop parler d'attitude à cet égard révolutionnaire quant au rôle. Et je note qu'il n'y a pas de controverse avec les Juifs, nulle part, sur ce point. Ressuscité, Jésus se montre d'abord à des femmes, que l'on a appelées pour cette raison les évangélistes des apôtres. C'est certainement un fait éloquent et qui montre le souci qu'il avait de leur rendre honneur. Mais on note en même temps qu'il ne les charge pas pour autant d'un ministère. Un ministère c'est-à-dire officielle, évidemment, le mot ministère peut être pris dans un sens lâche, tous les chrétiens, etc., avec un service à rendre, un ministère, mais un ministère de ce type officiel, structurel dans l'Église, on ne le voit pas pour autant. Bien qu'elles aient été les premières à le voir ressusciter. À ces femmes, on les appelle souvent les saintes femmes, vous le savez, est associée Marie, la mère du Seigneur. Et je pense qu'on doit observer la place de Marie. Malgré l'avertissement de Marc 3, 31 à 35, le passage où Marie et les frères de Jésus sont à sa recherche, semble-t-il, pour lui dire, mais ça ne va pas, tu es fou de te lancer là-dedans. Dans ce passage-là, Jésus répond, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et ils refusent de voir la mère de Jésus et les frères. Malgré l'avertissement donc, que nous donne ce passage, il me semble que les quelques textes qui citent Marie, et en particulier les deux de l'évangile de Jean, Jean 2 à Cana, Jean 19 à la croix, montrent que Marie a une certaine valeur symbolique dans le récit des évangiles. Je crois bien, comme certains théologiens catholiques, que Marie est une figure de l'humanité élue, et plus spécialement, alors là, une note un peu plus originale, enfin, je ne suis pas seul à penser comme ça, de l'Israël qui attendait la délivrance, le salut de des Israélites pieux, de cette communauté qui est le véritable Israël en Israël. Cela, c'est conforme à la représentation du peuple de Dieu comme de l'épouse de l'Éternel, comme une femme. Mais alors, si cette valeur de représentation est présente, discrètement indiquée dans les textes du Nouveau Testament, quel est le rôle qui est évoqué? Alors c'est là que je me séparerai des théologiens catholiques en général, qui font de Marie la coopératrice du salut, certains la co-rédemptrice. Il me semble que Marie, dans ses récits même, figure comme l'objet de la grâce, non pas comme source de grâce, mais comme objet de la grâce, représentant là l'humanité. Humanité élue, le terme de la salutation de l'ange, c'est gracié, que caritomene, c'est un participe passé du verbe carito-o, de caris grâce, dire gracié. C'est un participe passif, au parfait. Le sens donc est bien comblé de grâce, comme je crois la Bible de Jérusalem le dit, mais comblé avec le sens propre de ce terme, celle à qui la grâce a été faite en abondance. C'est très littéralement gracié. C'est comme objet de grâce que Marie figure. Et il me semble qu'on pourrait résumer en disant que le rôle qu'elle a, c'est celle de la réceptivité responsable. Dans cette histoire du salut, où elle figure en quelque sorte toute l'humanité, elle reçoit la grâce, mais elle la reçoit d'une manière responsable, avec un oui au Seigneur, ce qui correspond exactement à la situation de l'humanité dans les textes sur la grâce. Par rapport à la grâce, nous sommes récepteurs, nous recevons, mais recevons de façon responsable, pas automatique, avec le oui de la foi. Voilà ce que je trouve à dire dans ce résumé, dans la deuxième partie, hommes et femmes pour Jésus. Troisième sous-paragraphe, hommes et femmes dans l'Église primitive, des actes à l'Apocalypse. Hommes et femmes bénéficient semblablement du baptême du Saint-Esprit. En acte 2, cela est souligné, Et c'était un des points frappants de la promesse de Joël accomplie à ce moment-là. Vos fils et vos filles. Et hommes et femmes sont admis dans l'Église, visibles de la même manière, par le baptême d'eau. Plusieurs textes précisent justement que c'est hommes et femmes qui sont baptisés. Acte 8, 12 par exemple. Alors c'est un point qu'on peut relever parce que dans l'Ancien Testament, le signe de l'Alliance était exclusivement appliqué aux hommes, la circoncision. Donc le signe de la Nouvelle Alliance et de l'entrée dans la communauté visible de cette Alliance, l'Église, est administré aux hommes et aux femmes. Ils participent ensemble, mais alors ça c'est comme pour la Pâque dans l'Ancien Testament, à la Sainte Cène, à l'Eucharistie. Cela peut, je crois, se mettre en rapport avec le passage de Galates 3, 28 que nous avons commenté la dernière fois. Hommes et femmes travaillent dans le ministère évangélique, c'est-à-dire qu'il y a dans les divers ministères des hommes et des femmes. Cependant, on ne trouve que des hommes dans deux ministères qui sont d'ailleurs, semble-t-il, très, très proches l'un de l'autre. Le ministère d'ancien ou évêque, les deux termes sont équivalents, pas par leur connotation, mais par la désignation qu'ils impliquent. Donc, on ne voit pas dans aucun texte d'anciens ou d'évêques féminins, et on ne voit pas non plus de docteurs, didaskalos, chargés d'enseignement, de l'enseignement dans l'Église. Par contre, pour tous les autres ministères, on voit des hommes et des femmes. Semblablement. Il n'y a pas de ministère, semble-t-il, exclusif. Mademoiselle. Oui, 1 Timothée 5, verset 1er, a un terme qui peut désigner soit l'âge, soit un statut d'ancien ou d'ancienne. C'est pour les anciens, dans ce même verset, aussi la même équivoque. On peut penser qu'il s'agit de l'âge, ou on peut penser qu'il s'agit du statut. Mais comme il peut s'agir de l'âge, et que nulle part ailleurs il n'est question d'ancienne dans l'office de l'ancien, et que le reste du passage ne semble pas impliquer un office particulier, dans ce début d'un Timothée 5, il me paraît très très peu plausible que ce soit là l'office d'ancien qui soit en cause pour les femmes. Mais c'est 1 Timothée 5, 1. Vous pourrez le lire dans les groupes en particulier, voir. Et pourront en reparler encore tout à l'heure. Donc, pour les anciens, moi, je ne vois pas en tout cas de titulaire féminin. Mais pour diacre, par exemple, vous avez là une bonne attestation, présence de femmes, des prophétesses, etc. Il y a certaines femmes qui semblent avoir exercé une très forte influence. Romains 16 nous parle de Phébé, qui est diacre de l'église de Sancré, mais qui reçoit aussi le titre de, si je me rappelle bien, prostatis, c'est-à-dire un peu de patronesse. C'est une personnalité qui, sans doute, grâce à une fortune personnelle, une influence sociale due à son rang, a joué le rôle de patronesse pour la jeune Église, a constitué une autorité, semble-t-il, pour elle. C'est, je pense, plus qu'une simple diaconesse, qu'un diacre parmi les diacres. L'autre, ce second terme est important. Et on peut aussi parler de Priscille, la femme d'Aquila, qui est nommée le plus souvent avant son mari. Alors ça, c'est un phénomène assez surprenant, étant donné les habitudes de l'époque. Et beaucoup de commentateurs sont d'accord pour dire, cela suggère que c'est elle qui exerçait le plus d'influence, que c'était la personnalité des deux, la plus rayonnante et très connue dans les églises. C'est Priscille et Aquilas qui ont pris Apollos à part. Apollos qui était disciple de Jean-Baptiste et qui avait déjà compris beaucoup de choses, mais qui avait besoin d'un complément d'instruction. C'est un enseignement privé sans doute, mais un enseignement qui a été singulièrement important. Et Priscille et Aquilas l'ont dispensé. Le théologien libéral Harnack pensait même que c'était Priscille qui avait écrit l'Épître aux Hébreux. Ça paraît quand même un peu difficile à affirmer, mais comme cette épître est anonyme, il se disait, pourquoi est-elle anonyme? Ah, ça pourrait bien être parce que c'était Priscille. Alors, une femme, étant donné les attitudes du temps, ne pouvait pas déclarer tout clairement que c'était elle qui avait écrit. Mais, vous voyez, bon, c'est un petit à côté que cette hypothèse, mais je mentionne quand même. 1 Pierre 3 confirme les enseignements de Paul pour le mariage. Il demande la subordination à la femme et le respect du mari. Il donne l'exemple des saintes femmes de l'Ancien Testament, lui qui les appelle saintes femmes, et de Sarah qui appelait Abraham Seigneur. Et c'est lui qui emploie l'expression de sexe plus faible pour la femme, demandant au mari d'avoir des égards à l'égard de, envers sa femme. Donc c'est aussi un passage qu'on peut citer qui va dans la ligne, mais avec peut-être un vocabulaire plus lourd dans la ligne d'Éphésiens 5. Oui, je crois qu'on peut dire que le vocabulaire est plus lourd. C'est un paradoxe, à mon avis, qu'on accuse Paul de misogynie, alors qu'en fait, le texte de Pierre pourrait être ressenti par des féministes comme plus désagréable. Paul lui-même, dans les épîtres à Timothée et à Tite, évoque les rôles, surtout dans Tite 2, 3 à 5, puisque nous parlons spécialement des rôles, je crois qu'on peut mentionner cela. Et il semble penser surtout à des rôles d'intérieur. Il met en relief la maternité et le soin des enfants. Mais le motif qu'il donne n'est pas là une référence à la Genèse. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ces textes précédemment. C'est uniquement des motifs de réputation d'Église. C'est un souci d'image publique qui semble surtout présent dans l'esprit de Paul, d'après le contexte immédiat. Dans ces passages, donc d'Actes à Apocalypse, la communauté de l'Alliance est toujours représentée par une femme. Ça suit là la ligne de l'Ancien Testament. C'est Sarah qui la représente en Galates 4. Elle est l'épouse de l'agneau dans toute l'Apocalypse. Dans la seconde épître de Jean, je suis assez sûr pour ma part que Kyria, l'élu, c'est la personnification de l'Église, d'une Église qui donc est représentée comme une femme. Donc nous restons là dans la même symbolique que dans l'Ancien Testament. Voilà les données bibliques. Quatrième partie, impressions et propositions. Ma première impression, c'est que l'Écriture n'est pas très explicite sur la question des rôles en particulier. Il n'y a pas beaucoup de détails sur les qualités spécifiquement masculines ou spécifiquement féminines, ni sur des fonctions qui correspondraient de façon stricte. Je dirais, si je compare aux opinions véhiculées par la tradition, à peu près dans toutes les cultures, je suis frappé par l'extrême sobriété de la Bible à cet égard. Il y a beaucoup moins que dans l'image que se sont forgées la plupart des cultures humaines. Il y a cependant quelques thèses solidement établies que je vais essayer de résumer et qui me semblent interdire la reprise pure et simple d'aucun des quatre modèles que j'avais schématisés dans l'introduction. Vous vous rappelez les quatre modèles ? Il me semble qu'aucun d'eux ne convient strictement, ne s'accorde avec les données bibliques que nous avons passées en revue. Pardon ? Oui, alors je rappelle très brièvement. Le premier, c'était le modèle inégalitaire du plus et du moins. En gros, surtout sous la forme masculiniste ou machiste, de la femme comme mâle manqué. Elle a les mêmes qualités et capacités, mais en moins grande quantité. Donc un statut d'infériorité. Deuxième modèle, c'était le modèle identitaire, comme je l'avais appelé, le modèle égalitaire de tendance rationaliste, celui que Simone de Beauvoir prolonge, à savoir qu'il n'y a aucune différence donnée et que chacun, à partir d'une identité de situation, de liberté en situation, a à être ce qu'il projette d'être. Le troisième modèle, c'était le modèle bipolaire, qui souvent prend le thème de l'androgyne comme illustration mythique, où masculin et féminin sont comme les deux pôles de l'être qui doivent être tenus en équilibre, considérés comme complémentaires, dans une espèce de symétrie qui régit ultimement, dans certaines extrapolations au moins, toute la réalité. Bon, je l'ai appelé aussi modèle du yin et du yang, selon les termes du taoïsme. Et le quatrième modèle, c'est le modèle que j'ai appelé indépendantiste, qui s'atteste à la pointe du féminisme contemporain, modèle égalitaire, mais où la différence est, contrairement à ce qu'on a chez Simone de Beauvoir, où la différence est au contraire proclamée, où c'est la complémentarité qui est refusée, où c'est la référence à l'autre sexe impliquant une dépendance qui est refusée. Il y a affirmation de la différence, en quelque sorte pour elle-même. Voilà les quatre modèles. Donc, je pense qu'il y a suffisamment de thèses dans la Bible pour nous obliger à écarter ces quatre modèles tels qu'ils sont. Il y a d'abord dans la Bible un très fort accent sur la participation entière à la dignité humaine des deux sexes. Le fait que hommes et femmes sont pleinement humains l'un et l'autre, participent semblablement à l'image de Dieu, etc. Ça n'allait certainement pas de soi dans les temps bibliques, et c'est affirmé à la fois dans la Genèse, de façon très forte, nous l'avons vu, et c'est repris dans le Nouveau Testament, et c'est ce qu'implique entre autres Galates 3:28, l'attitude de Jésus, etc. Deuxièmement, la dualité masculin-féminin est considérée comme très importante. Je veux dire qu'elle n'est pas considérée comme un épiphénomène, un caractère accidentel qui ne toucherait pas très fondamentalement l'existence humaine. C'est la thèse qui me semble nous obliger à refuser la ligne Simone de Beauvoir. La première thèse pourrait sembler aller dans ce sens. Égalité, même essence humaine, etc. Alors, la deuxième thèse va justement en sens contraire. Il est très important d'être homme ou femme aux yeux de Dieu. C'est une différenciation de grande portée. Voyez. Il est bon de le souligner socialement, même, par exemple, dans le vêtement. Vous savez qu'il y a un commandement dans la loi, je n'ai pas fait allusion, qui proscrit qu'un homme s'habille avec vêtements de femme, une femme avec vêtements d'homme. Sans doute, c'est pour refuser certaines pratiques magiques des cultes cananéens. Mais ça a sans doute une valeur encore plus large. Dieu aime que les distinctions soient fermement tracées. Il ne veut pas qu'on tente, comme pratiquement toujours dans la magie, de transgresser les limites, de mélanger les genres. Dieu apprécie cette soulignure sociale, pourrait-on dire, de la distinction. Mais cette différenciation masculin-féminin est moins traitée comme une différenciation des caractères que comme une ordination l'un à l'autre. Je vais expliquer ce que je veux dire par ces termes, c'est un vocabulaire assez abstrait, je reconnais. Mais c'est parce que je résume, n'est-ce pas ? Ce qui importe quand on dit masculin et féminin, c'est pas tant que le masculin et le féminin signifient des qualités très différentes, des capacités diverses, que l'un soit plus ci ou l'autre soit plus ça. C'est pas ça qui semble tellement important dans la Bible, mais plutôt qu'ainsi hommes et femmes soient renvoyés les uns aux autres. La grande pensée biblique à ce propos, c'est que la différence sexuelle dément la prétention de l'individu à se suffire, à être par lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, déjà éloquent à cet égard. Aucun individu ne peut prétendre constituer l'humain à cause de l'importance de cette différenciation. Ça me paraît, bien sûr, il y a aussi une différenciation de caractère, mais ça me paraît l'intérêt premier de la Bible, contrairement à ce que l'on trouve souvent dans les réflexions, commentaires, etc., sur la différenciation sexuelle. L'ordre voulu par Dieu, cet ordre de différenciation des sexes, est un ordre qui est voulu d'abord pour leur rencontre et leur coopération. C'est très fortement marqué dans un article que j'ai apprécié d'un théologien allemand décédé, Erwin Metzke, dans un numéro spécial de la revue dominicaine Lumière et Vie sur théologie du féminin, théologie de la femme. Et bon, je me suis dit, en effet, c'est bien vu ça. La différenciation, cependant, la différenciation des caractères est aussi impliquée. Et à son propos, je trouve dans l'écriture à la fois la notion de complémentarité et l'affirmation d'une dissymétrie. Alors, affirmation de la complémentarité, ça va dans le sens du modèle yin et yang, oui, etc. Mais dissymétrie, c'est le contraire. Car le yin et yang est un modèle de type symétrique. Or, je crois que je dois affirmer dans la Bible à la fois une présence de l'idée de complémentarité, mais sa modification par une dissymétrie. Alors, cette dissymétrie, qui signifie le rôle de tête dans les textes de Paul, à l'homme, au moins dans un certain nombre de relations, de cadres, je crois qu'on ne peut pas nier que c'est une dissymétrie. Elle est plus affirmée que fondée dans l'écriture. Voilà ce que j'observe. Je suis frappé de l'absence de ces raisonnements que l'on trouve très facilement dans la tradition. Par exemple, l'autorité doit revenir à l'homme parce que la femme est incapable de... Voyez, etc. Voyez, c'est très facilement, de cette manière, que traditionnellement, on a raisonné. Or, ça, c'est absent de la Bible. Il y a des textes pour dire l'autorité est dévolue à l'homme, mais il n'y a pas ces raisons accompagnatrices. C'est plutôt une affirmation. C'est intéressant à noter. La raison principale qui est donnée n'est pas une raison de ce type. C'est, je crois, celle qui a trait à la symbolique des représentations. L'homme représentant Dieu, dont il est question avec des images masculines le plus souvent, dont il est question au masculin, dans les mots qui servent, et la femme représentant l'humanité dans son alliance, le Christ et l'Église dans l'accomplissement ultime du Nouveau Testament. Alors, à propos de cette dissymétrie, de cette différence, les complémentarités aussi, etc., je pense que je peux faire part de quelques réflexions qui correspondent à un effort d'intelligence des dispositions divines. Je vous ai donné le fruit de l'exégèse, maintenant je vais un peu au-delà. Je pense qu'il y a des faits bien recensés, et c'est surtout dans le gros livre là, Le fait féminin, que j'ai cité l'autre fois, que j'en ai trouvé plusieurs, acquis de façon assez indubitable, qui nous confirme qu'il y a bien une différenciation de caractère relative, mais impliquant complémentarité, et aussi une certaine dissymétrie. Il y a l'effet de l'imprégnation hormonale du cerveau, qui semble maintenant être bien dégagé. Il semble que dans une période très brève, dans la vie utérine et dans la période néonatale, mais c'est à quelques jours près, les hormones sexuelles déterminent le cerveau. Et en particulier l'hypothalamus est, semble-t-il, affecté d'une manière définitive à ce moment-là. Ce qui conduit ce conditionnement hormonal du cerveau à des différences d'aptitude observables. Les aptitudes linguistiques sont plus développées chez les filles et les femmes, les aptitudes spatiales chez les garçons et chez les hommes. Ça paraît vraiment un acquis des travaux de psychologie, des tests, etc. C'est d'ailleurs lié, cela même, semble-t-il, à des différences de développement des deux hémisphères cérébraux. Ouais, vous trouverez tout ça développé en long et en large avec des tas de longs paragraphes assez pénibles à lire dans le langage des scientifiques contemporains pour de toutes les expériences qui ont démontré ces choses, mais il semble que ce soit là à peu près acquis. Donc ce colloque de Royaumont, dirigé par Evelyne Sulro, qui semble avoir établi ces choses. Parce que ce sont deux hémisphères différents qui justement règlent les aptitudes linguistiques et les aptitudes spatiales. Ça a l'air vraiment indubitablement de déterminer ses caractères. Evelyne Sulro raconte qu'elle a dû revenir de sa foi environnementaliste antérieure, parce qu'elle a été une des pionnières dans le mouvement féministe, toujours avec beaucoup d'intelligence, mais dans les années 60, pensant que les différences étaient essentiellement dues au conditionnement d'éducation et à l'environnement social. Et puis, elle avoue qu'elle a dû revenir de cette conviction-là, que les faits ont résisté, et que même dans les pays où, par idéologie, on essaie de supprimer les différences, elles tendent toujours à renaître. Par exemple, des expériences en URSS semblent là montrer une sorte de rébellion des traits particuliers. Il y a aussi, comme différence, il y a des conséquences sociologiques très importantes, une distribution différentielle des aptitudes qui n'est pas du tout la même. Alors ça, elle montre très bien, Evelyne Sulro, la portée sociale, sociologique, sociale, historique. Pour les tests que l'on retient, elle souligne d'ailleurs que les tests qui font apparaître de trop grandes différences moyennes entre garçons et filles sont supprimés de la circulation, retirés de la circulation, qu'il y en a, mais qu'on les retire, ce que le public ne sait pas. Elle fait remarquer ça. Mais pour les tests que l'on retient, qui donnent des résultats moyens à peu près équivalents, et entre garçons et filles, la distribution n'est pas la même. Pour les filles, les résultats sont plus ramassés. Pour les filles, ce sont les valeurs moyennes qui sont les plus fréquentes, alors que pour les garçons, il y a à la fois plus de valeurs très hautes et plus de valeurs très basses. Plus de quotient intellectuel très élevé et plus de quotient intellectuel très, très indigent, de débile léger. Oui. Ben, ce livre, n'est-ce pas, duquel je prends, c'est un livre de 520 pages, c'est Le fait féminin. Hein, c'est Le fait féminin chez Fayard en 78, c'est tout récent, c'est la publication de ce livre. Et je vais peut-être vous lire La formulation, oui. Sur la notion de distribution différentielle. Avec ces instruments de mesure que sont les tests, dit-elle, et puis il faut toujours bien sûr faire la critique de cet instrument de mesure même, dont sont du reste retirées les épreuves qui introduisent trop de différences entre garçons et filles, chose que le public ignore souvent, filles et garçons obtiennent en moyenne les mêmes résultats dans toutes les populations. Mais la distribution des quotients intellectuels révèle toujours la même différence entre filles et garçons. Les résultats obtenus par les filles sont davantage groupés autour de la moyenne, formant une courbe de Gauss assez resserrée, et ceux des garçons sont plus dispersés, avec davantage de résultats très faibles et davantage de résultats très élevés. Et alors elle a très bien vu que, quant au résultat social, c'est très important. Parce que ça va impliquer, pour la formation des élites, une certaine prédominance masculine, que le fait même va encore amplifier. Parce que des stéréotypes vont se former, les débiles légers, on les oublie, on les néglige, ils sont jetés aux oubliettes de l'histoire, etc. Vous voyez, du point de vue sociologique, alors que les valeurs moyennes sont semblables, vous avez des effets de ce genre qui apparaissent. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est une sorte de confirmation, pendant l'observation scientifique, de ce que l'écriture me semble attester, d'une réelle différenciation. Que dire encore? Eh bien, moi je crois que... il est indéniable, et le livre, alors, le fait féminin n'en parle guère, qu'il y a un retentissement sur toute la personnalité des caractères sexuels primaires. Ça, Simone de Beauvoir a su le voir, le percevoir, sans vouloir en tirer toutes les conséquences. Mais l'anatomie, par exemple, a des conséquences sur la psychologie la plus profonde et inconsciente considérables. Evelyne Sudreau d'ailleurs dit bien que tout cet aspect-là a été ignoré dans le livre en cause et qu'il faudrait en écrire un autre qui s'intitulerait Le sujet féminin, où ces aspects de vécu qui ne sont guère mesurables par des tests à la manière donc très, très positiviste des études qui sont résumées dans le fait féminin, où ces faits du vécu seraient pris en compte. Et puis alors, en plus de cela, alors il y a les exigences de la maternité. Je crois que la maternité ne peut être que féminine. Nous ne sommes pas encore dans le meilleur des mondes avec les bébés éprouvettes. Or, comment nier que l'événement de la maternité, pour bien se passer, doit être... préparé, lié à une multitude de conditions concomitantes. Donc je crois que le seul fait de la maternité nous explique largement qu'il y ait cette différenciation, cette dissymétrie, cette complémentarité. Voilà donc quelques réflexions que je fais à propos de cette thèse. Quatrième élément, alors là c'est la thèse peut-être la plus discutable, celle qui vous fera peut-être réagir, de mon petit résumé. Je dirais, en fonction de cette différence, l'existence de stéréotypes n'est pas en soi un mal. Quant au rôle, donc, masculin et féminin. Même s'ils infléchissent ce qui eût été sans eux le développement spontané. Et les stéréotypes, donc, une image toute faite de ce que doit être un garçon et faire un garçon, ce que doit être faire une fille, etc., peuvent infléchir le développement spontané. Une fille avec des goûts de garçon, etc., on lui apprendra à jouer, à soigner le bébé, etc., stéréotype peut modifier un développement spontané. Eh bien, alors que très souvent on accuse les stéréotypes, je suggère que leur existence n'est pas en soi un mal, ni du point de vue individuel, ni du point de vue social. Du point de vue individuel, il me semble que les stéréotypes sont une aide dans la recherche de l'identité, qui est génératrice de beaucoup d'angoisse, et que l'individu peut trouver un réel secours dans ses coups de pouce, qui l'aide à s'identifier. Et d'autre part, il y a, me semble-t-il, un profit social à l'existence des stéréotypes. Ils aident à garantir l'accomplissement des fonctions indispensables à la vie sociale, devant lesquelles les individus renacleraient peut-être, sans cette petite pression, comme la maternité ou comme la défense. Je prends un exemple de chaque côté. Je crois que le stéréotype de la maternité comme vocation féminine peut pousser dans cette voie la femme qui pourrait, raisonnant à froid ou écoutant son seul désir spontané, ne pas avoir tellement envie de procréer. Or, il est incontestable que le bien de la société exige que la fonction de maternité soit remplie. De même, le garçon, devant les risques de la guerre, pourrait réellement renacler, essayer de déserter. Mais le stéréotype du garçon et de l'homme tel qu'il a été formé pour des siècles précédents le nôtre, le pousse dans cette voie qui est nécessaire à la survie de la communauté en cause. Donc vous voyez, pour la société en cause, les stéréotypes ont un rôle nécessaire. Cependant, la différenciation est dans l'écriture relativisée à la fois dans son principe et son application. Pour la relativisation de principes, vous pouvez lire 1 Corinthiens 11, c'est assez remarquable. Paul ayant affirmé ces choses, les relativise après, en disant « mais l'homme n'est pas sans la femme, et de toute façon tout vient de Dieu, etc. » Il y a une manifeste volonté là de relativisation des choses même qui ont été dites à propos de la dissymétrie. Et dans toute l'écriture, ce qui me frappe, c'est la souplesse, la présence d'exceptions aux tendances principales. Il y a interférence des caractéristiques individuelles et de la liberté de Dieu avec ces dispositions générales que j'ai décrites. Il y a des différences de rôle, mais selon les dons individuels, on peut très bien remanier les choses. Selon les vocations que Dieu adresse spécialement, il peut y avoir différence aussi. L'ordre est une structuration souple et les stéréotypes ne sont pas un carcan dans l'écriture. Il me semble qu'il y en a, et c'est dans la mesure où il y en a, où il ne semble pas condamné, que j'ai essayé de plaider qu'ils ont une valeur, mais je remarque aussi qu'ils sont très loin d'être un carcan tel que les choses se passent dans la Bible. D'autre part, nous devons nous rappeler que le péché a corrompu l'ordre. Le péché se greffe sur toute réalité créée. Et il me semble indéniable qu'il a rendu l'ordre oppressif pour le sexe féminin selon la logique constante du péché. Alors, quelle est la logique constante du péché? Je l'exprime souvent de la manière suivante: l'homme pêche tant qu'il peut. Le péché, c'est le mauvais usage de la liberté qu'on a. Plus l'homme, l'humain en général, a de liberté, de capacité d'influer sur les choses, plus il pervertit ses voies. Moins il est borné par les lignes de la réalité que Dieu avait tracées, plus il se corrompt. Dans l'ordre dissymétrique qui a été créé, l'homme qui représente Dieu en face de sa communauté semble avoir un plus de liberté, d'autorité. Du coup, alors, il pervertit davantage. Et il en tire, selon la logique du péché, il pêche tant qu'il peut, il en tire l'occasion d'une oppression. C'est ce que Genèse 3 me semble appliquer, je l'expliquais la dernière fois. Alors, contre cette corruption, qui est un salaire du péché, nous avons à lutter, sans nous faire d'illusions, elle sera toujours là, mais nous avons à lutter avec réalisme biblique, c'est-à-dire en sachant bien d'où vient le mal, non pas des structures, mais ultimement du cœur de l'homme, en sachant que Remédier aux effets mauvais en introduisant de mauvais principes, c'est souvent inviter pire. Mais enfin, la lucidité quant au caractère pêcheur des oppressions me semble aussi un élément important. Alors, ces principes posés, je résume très très vite ce qui me semble être la conclusion possible dans les différents domaines en cause. Bah, vraiment, je ne vais pas développer pour que vous ayez le temps de discuter, mais bon, dans le couple d'abord. Moi, je crois que Éphésiens 5 reste le modèle, même si des variations individuelles peuvent jouer à plein. C'est un problème réel pour certains couples. Mes cousins Philippe et Nancy de Corvet ont fait tout un travail de cure d'âme, de couple, qui était spirituellement et psychologiquement malade parce que l'homme n'y avait pas son rôle d'autorité. Je crois que même si on tient compte des différences de tempérament, de capacité, etc., il y a là un ordre divin qu'on ne bafoue pas sans en être meurtri. Alors ça ne veut pas dire le modèle patriarcal, pater familias romain, etc., mais ça veut dire une certaine autorité, un certain... Éphésiens 5. Bon. Dans la famille, deuxième catégorie, très important de noter la différence entre le couple conjugal et la famille. C'est une autre institution. Et là, l'autorité est conjointement celle des parents. Ce n'est pas le père, plus que la mère. La division des tâches paraît une chose rationnelle pour l'efficacité. Et ce qui se rattache à la maternité me semble assez logiquement mis du côté féminin. Cependant, rien ne justifie un surcroît de travail du côté féminin dans cette division des tâches. Et sur ce point, j'ai l'impression que la Bible ne prescrit pas de façon précise. Dire qu'on peut tenir compte des commodités, des temps, il n'y a pas, me semble-t-il, de principe théologique qui soit en jeu de façon décisive. Oui. Je ne vois rien qui interdise la répartition, la spécialisation. Ça paraît une démarche rationnelle, mais chacun sait aussi que si on la pousse trop loin, cela peut devenir desséchant, etc. C'est une question de sagesse générale. Dans la vie économique, c'est là que les conditions ont le plus changé ces dernières années. Il y a vraiment une modification. Je veux dire que ces dernières dizaines d'années, prodigieuses par rapport à toute l'histoire antérieure. Et je pense que nous pouvons fort bien en tenir compte que la Bible n'interdit pas une activité féminine très importante. Proverbe 31 est déjà un texte fantastique. Je ne vois pas quelle limitation ce texte permettrait d'apporter. Mais pour le bien social, et là, je pense aux travaux de Chaunu en particulier, qui me semble avoir profondément raison. La maternité est à souligner. Et j'avoue que je crois que le mouvement féministe, tel qu'il s'exprime assez couramment aujourd'hui, n'a pas l'attitude de responsabilité quant au bien de la société qu'il devrait avoir à ce propos. On pourrait bien sûr discuter tout ça. Dans la cité, petite idée, dans la cité, les conditions indéracinables que décrit le fait féminin me font penser qu'il y aura toujours une minorité seulement de femmes qui accéderont au pouvoir politique, à l'exercice du pouvoir politique. On faisait remarquer que de 1500 à 1570, il y a eu plus de femmes chefs d'État que de 1900 à 1970. Mais pourquoi pas des Déborah, Je ne vois aucune objection de principe. Dans l'écriture à ce propos, ou une institution correspondant aux femmes sages de l'Ancien Testament. Enfin, dans l'Église, l'Église visible, nous sommes certainement plus pauvres en ministère féminin que l'Église du Nouveau Testament. Je crois que c'est lié à ce qu'on a pu appeler la monarchie pastorale, une concentration de tous les ministères dans la personne d'un seul homme, dans beaucoup d'églises, et que cela, c'est quelque chose qu'il faut essayer de réformer au profit d'une plus grande diversité de ministères et d'un collège de ministres, pas tous salariés, certains bénévoles, d'autres salariés, comme dans, ou peut-être, ce serait peut-être salariés partiellement, beaucoup plus. C'est vers là qu'il faudrait aller. Alors les textes de Paul, à ce propos, ne peuvent pas être négligés. On ne peut pas, à mes yeux, les dépouiller de leur force en disant que c'était uniquement les conditions du temps qui déterminaient sa position. Il fait des références trop précises à la Genèse. Mais je ne crois pas non plus qu'on puisse en faire des articles de code, des lois sans exception intangible posées comme ça, a priori. Je suis porté, à cause des exceptions bibliques que je constate, à dire, et à cause de l'ensemble, de la façon dont les rapports masculins-féminins sont envisagés dans la Bible, de dire qu'il s'agit d'un rappel, chez Paul, du régime ordinaire, qui correspond à la disposition que Dieu a établie en gros. Il faut que nous prenions conscience de ce régime ordinaire et que nous le respections comme une mesure de la sagesse de Dieu. Mais que ça n'exclut pas les interventions de la providence extraordinaire de Dieu. Et dans le nombre qu'il voudra, ce n'est pas une question de nombre, entre la différence entre ordinaire et extraordinaire. Et ça veut dire simplement qu'il y a un ordre habituel qui est attesté dans les textes bibliques, mais ça n'empêche pas Dieu de susciter comme il veut. Et quelle sera pour nous la preuve que Dieu a suscité de façon extraordinaire un ministère, même d'autorité ou d'enseignement pour une femme? Ce sera les dons qu'elle a reçus. C'est la présence des dons voulus qui est la preuve que Dieu appelle à tel ou tel ministère. Donc, je conclue pour ma part que dans l'Église, il ne doit pas y avoir d'articles de code qui interdisent tel ou tel ministère, même ceux pour lesquels il n'y a pas de femme dans le Nouveau Testament que l'on voit. Il me semble qu'il ne doit pas y avoir d'articles de code qui interdisent d'avance, mais qu'il faut qu'il y ait un rappel dans l'enseignement de la structure ordinaire que Dieu a instituée. Voilà ce que sont mes propositions.